Chapitre 75. Mai 2001. 5 nominations aux Molières pour des enfants en commun, mais c'est une bête sur la lune, de Richard Kalinowski, qui a tout raflé. Mise en scène Irina Brooke. Prodigieux. Magistral. Adrien n'a jamais rien vu d'aussi bouleversant. Il se souviendra de l'interprétation de Simon Abkarian et Corinne Jabert jusqu'à sa mort. En quittant le théâtre de l'œuvre, ses mains en tremblaient encore. Mais il en veut tout de même aux votants. C'est comme si la profession avait rejeté sa pièce. Il rumine, se sent amer. Il est tellement plus facile de donner la place d'honneur au génocide arménien qu'à un huis clos familial. Après la cérémonie, il n'assiste pas au dîner organisé en l'honneur des nominés. Il préfère rentrer chez lui, à pied, plantant l'ensemble de la troupe. Il ne prétexte même pas un mal de tête, il dit que tout ça le fatigue, qu'il préfère partir. Il n'a pas envie de féliciter les lauréats. Il marche seul dans Paris, l'air est doux. Encore un été qui approche à pas de loup. Et que va-t-il en faire? Depuis quelques semaines, il a des envies de Louise et de personne d'autre. Pourquoi pense-t-il cela? Il n'a jamais eu envie que de Louise. Que ton existence est sombre, mon pauvre vieux. Oh pardon, ma pauvre vieille, mes pauvres vieux, vous faites une sacrée paire. Adrien téléphone souvent à Louise. Ce soir, elle voulait l'accompagner, être près de lui, mettre une jolie robe. Il lui a expliqué qu'il préférait entretenir le mystère. Je refuse que quiconque sache qu'il y a quelqu'un dans ma vie. Comprends-moi, Louise. Imagine que je reçoive un Molière. Personne ne doit savoir que tu existes.
Que j'existe? Moi? Ou que tu n'existes pas, toi?
Et elle a raccroché. Bien fait pour moi. Elle lui a tout de même envoyé un message avant la cérémonie. Bonne chance. Fier de toi. Il a répondu. Je t'aime. Adrien n'a aucune nouvelle de Nina. Louise non plus. Elle a bel et bien disparu, mais pas comme Clotilde. Elle, c'est différent. Nina est partie il y a 7 mois sans laisser d'adresse, mais en envoyant une lettre d'adieu. Chaque fois que ses pensées l'emmènent vers Nina, Adrien les rejette. Après avoir vu Étienne à la brasserie La Lorraine en octobre dernier, Adrien n'a pas réfléchi ni attendu un jour pour téléphoner à la gendarmerie de la Comelle. Il a demandé à parler à Sébastien Larrand, comme le lui avait indiqué Étienne, un copain du collège qui est adjudant là-bas.
Adrien Bobin, oui, bien sûr, dis donc. T'es devenu célèbre. Avec ma femme, on t'a regardé chez Poivre d'Arvor. Franchement, on t'a bien parlé. Qu'est-ce qui me vaut ton appel?
Je voulais te dire que, le soir où Clotilde Marais est partie, j'étais avec Étienne Beaulieu.
Ouais, il m'en a parlé.
En fait, je n'ai pas quitté Étienne de la journée, ni de la nuit. Après l'enterrement de Pierre Beau, on est allés ensemble au lac de la Forêt. On a attendu Clotilde. Je devais les laisser quand elle arriverait, mais elle n'est pas venue. Alors nous sommes rentrés ensemble chez Nina Beau et...
Excuse-moi, Adrien, mais pourquoi tu me racontes tout ça aujourd'hui?
Pour qu'Étienne ne soit pas inquiété, au cas où on le soupçonnerait et...
Tu n'es pas au courant?
Au courant de quoi?
Quelqu'un aurait vu Clotilde Marais. Une chalonnaise en vacances à Salvador de Bahia. Elle est sûre que c'était elle.
Comment elle peut être sûre? Elle la connaît?
Elle a vu l'émission de Pradel. Une fille qui ressemblait trait pour trait à Clotilde Marais buvait un verre et quand cette femme s'est approchée pour lui parler, lui demander si elle était bien la fille disparue dont elle avait vu la photo à la télé, elle est partie sans répondre. Comme prise en faute. Ce genre de témoignage vaut ce qu'il vaut, mais pourquoi pas? On ne peut pas lancer de recherche de toute façon. C'est pas un enlèvement, c'est un départ volontaire. Chacun fait ce qu'il veut. Pour nous, c'est une affaire classée.
La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la Comelle. On aurait vu Clotilde Marais au Brésil. Emmanuel est fou furieux. Cet enfoiré d'Étienne Beaulieu ne sera donc jamais inquiété. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. La première fois qu'Emmanuel a serré la main d'Étienne, que Nina lui a présenté comme son autre meilleur ami, il l'a détesté. Une décontraction que lui, Emmanuel Damam, le fils prodige, n'avait jamais possédée. Quand il avait salué Adrien, il n'avait rien ressenti, mais l'autre, il l'a immédiatement haï. Cette manière que Nina et lui avaient de se regarder, leur connivence. C'était le jour de l'enterrement de Pierre Beau. Nina n'avait pas lâché ses deux amis, mais c'est la main de Nina serrant celle d'Étienne qui avait particulièrement révulsé Emmanuel. Après la cérémonie, il n'est pas allé jusqu'au cimetière. Il ne connaissait Nina que depuis quelques jours. Ce n'était pas sa place. Il la rejoindrait plus tard chez les Beaulieu. Il est reparti avec ses parents. Son père l'a déposé au bureau. Emmanuel s'est assis 5 minutes, incapable de se concentrer, le regard dans le vide. Puis il est monté dans une voiture de la société. La sienne était trop identifiable. Pour les suivre, s'accrocher au cortège. Il est repassé devant l'église. Le fourgon funéraire était toujours là. Au cimetière, il est resté très loin d'eux. La chaleur était intenable. Il s'est calé sous un arbre, observant Nina et ses deux amis collés les uns contre les autres. 3 silhouettes qui ne formaient qu'une ombre. Il a attendu que tout le monde soit parti pour rejoindre sa voiture. Il est passé chez lui prendre une douche, se changer, et s'est rendu chez les Beaulieu. Dès qu'il est arrivé, il a vu Nina assise sur un canapé, le regard perdu, et toujours sa foutue main dans celle d'Étienne. Clotilde Marais était assise près d'eux. Une jolie fille blonde à l'air triste. Elle ne cessait de regarder Beaulieu, qu'il l'ignorait. Emmanuel s'est approché de Nina, qu'il l'a à peine regardée. À ce moment-là, il a compris qu'il l'avait perdue, qu'elle allait partir et qu'il ne pourrait rien faire pour la retenir. Emmanuel a discuté avec Marie-Laure en buvant un verre. Que pouvait-il dire du défunt dont tout le monde parlait autour de lui? Ce brave facteur, il ne le connaissait pas. Ce qui était terrible, c'est que ce soit un camion de sa société qui l'ait renversé. Nina lui en tiendrait forcément rigueur. Il s'est approché d'elle, l'a embrassée dans les cheveux. Elle sentait la transpiration et le shampoing à la noix de coco. Il a eu envie de la renverser sur le canapé, là, devant tout le monde, pour lui faire l'amour. Il était cuit, amoureux à en crever. Il a soufflé. « À ce soir, peut-être, tu m'appelles ?»« Oui. » Un oui prononcé dans le vide, comme si elle s'adressait au vent. Emmanuel est ressorti de la maison exsangue. Ne pouvant se résoudre à partir, il a attendu. Attendu quoi? D'abord, il a vu Nina rentrer chez elle, seule, empruntée des ruelles, courbée par le chagrin. Elle marchait vite, comme si elle cherchait à s'échapper de sa propre existence. Il l'a suivie prudemment en voiture. Il ne fallait surtout pas qu'elle le découvre. Aux abords de la maison Beau, il s'est garé dans une rue parallèle, à couper le moteur. Bobin et Beaulieu sont arrivés environ 1 heure après elle. Emmanuel est resté dans sa voiture tout l'après-midi, fenêtre grande ouverte, ne trouvant pas le courage de redémarrer pour rentrer chez lui. Vers 18 ou 19 heures, Étienne Beaulieu est ressorti de la maison du grand-père, seul, comme un homme qui a perdu la raison. Emmanuel l'a suivi de loin. Contrairement à Nina, Beaulieu a marché doucement jusqu'à chez lui. Il a disparu 5 minutes à l'intérieur avant de ressortir et d'enfourcher une moto. Emmanuel s'est dit qu'il était temps de rentrer chez lui pour piquer une tête dans la piscine, qu'il faisait n'importe quoi, que sa chemise était trempée et qu'il avait mal au cœur. Et tout ça à cause d'une pisseuse de 18 ans, une mauvaise herbe qui avait grandi dans une cité ouvrière. Au moment où il allait prendre la direction du château, il a fait 2 demi-tours et suivi la moto, pensant un instant qu'il pourrait la renverser. Un coup d'accélérateur et le beau gosse irait tout droit dans le décor. En plus, Emmanuel n'était pas au volant de sa voiture, mais dans celle d'un commercial. Un peu de tôle froissée, ça passerait inaperçu. Curieusement, Beaulieu avait pris la direction opposée à celle de la maison du grand-père de Nina, celle du lac de la forêt. 7 mois que Nina se cache au refuge de la Comelle. Cependant, les journées passent vite, et Nina est presque heureuse dans cette vie de recluse. Jusqu'à ce que le personnel s'en aille vers 13 heures, elle reste entre ses 4 murs. Elle fabrique toutes sortes d'objets qui sont vendus aux journées portes ouvertes, un samedi par mois. Petits collages qu'elle encadre, bougeoirs, bracelets, mosaïques, peintures sur faïence. Lily est subjuguée par ses peintures. Nina élude, dit que lorsqu'elle était enfant, elle a pris des cours de dessin. Elle ne touche plus au fusain ni au bâton d'huile. Si Emmanuel tombait sur l'un de ses croquis, il pourrait le reconnaître et remonter jusqu'à elle. Au cours de ses journées, le public peut déposer nourriture, dons d'argent, couvertures, détergents, sacs poubelles. Il partage un café avec le personnel, rencontre les animaux en vue d'une adoption. Les créations de Nina sont exposées à l'entrée et la plupart sont achetées. Les gens s'étonnent de la beauté des divers objets décoratifs proposés. Ils attirent de plus en plus de monde. Cela commence à représenter une rentrée d'argent non négligeable. Et lorsqu'on demande à Lily d'où ils proviennent, elle répond invariablement « De différentes écoles d'art avec lesquelles la DPA a un partenariat. » Les jours ont rallongé. La campagne que Nina voit depuis son studio transformée peu à peu en atelier a changé. Les arbres ont retrouvé leurs feuilles et les fleurs de pissenlit jaunissent le pré. Vers 15h, il lui arrive de poser une chaise à côté des box et de rester une demi-heure au soleil ou de s'installer sur un banc dans la chatterie. Elle aide Lily à soigner, traiter, bander, brosser, nettoyer. Parfois, à la nuit tombée, Lily l'emmène faire un tour dans le centre de la Comelle, quand les commerçants ont baissé leurs rideaux, juste histoire de sortir. Nina a le sentiment d'être morte et de revenir parmi les vivants, le temps d'une virée en voiture.